Ça s'appelle Les écrivains en proie à la visibilité. Et ça va commencer par une lettre qui a été publiée dans Le Monde le 9 mai 2010. Certains d'entre vous l'auront peut-être lu. Ça s'intitule « La dernière photo de Rimbaud ». Et la lettre est signée de Jean-Jacques Lefrère et Jacques Dès et Alban Cossé. Je la lis. L'annonce de la découverte d'une photographie où apparaissent les traits d'Arthur Rimbaud à l'âge adulte a eu un impact d'une ampleur et d'une variété assez inattendues. Cette photographie a été présentée pour la première fois au Salon international du livre ancien le mois dernier. Quelques milliers de visiteurs sont venus la voir, comme s'ils avaient ressenti le besoin de s'assurer que ce cliché existait vraiment, matériellement, et comme si la confrontation à l'original allait leur faire toucher du doigt ce que Rimbaud avait été pour eux. Pour nombre de ceux pour qui l'œuvre et l'aventure humaine de Rimbaud ont compté, l'apparition de ce visage dans les brutales conditions du système médiatique a été un événement qui a touché à l'intime, une sorte de choc sourd, un sentiment comparable à la découverte de l'aspect physique d'une personne sur laquelle on sait beaucoup sans jamais l'avoir rencontrée, avec ce que cela peut entraîner de surprise, voire de désappointement, mais aussi d'émotion, en tout cas d'intensité. La révélation de cette photographie paraissait répondre à une attente insoupçonnée par chacun, mais profonde, le désir d'en voir plus, d'en savoir plus sur Arthur Rimbaud. Du coup, cette image a d'emblée acquis le statut de second visage de Rimbaud dans la mythologie collective, alors qu'elle n'est que le visage du second Rimbaud. Une dépêche de l'AFP reprise par d'innombrables médias nationaux ou internationaux prenait acte de cette espèce de précipitation chimique, comme si le simple dévoilement d'une image déplaçait quelque chose dans ce mythe prégnant pour beaucoup de gens sur le globe. Des centaines de personnes n'ont-elles pas éprouvé le besoin de réagir face à elle, dans la presse comme sur Internet? Certains, paraissant pris de panique, rejetaient en brandissant des menaces et des malédictions ce nouveau portrait qu'ils accusaient de briser le mythe. À les en croire, Rimbaud devait rester figé pour l'éternité dans une iconographie établie et fixée par quelques grands prêtres du rimbaldisme de jadis. Une idole n'a qu'un visage qui doit rester immuable et vénéré. Qui adorerait un Christ aux cheveux courts et rasés de près? Le Rimbaud d'Aden n'avait pas la tête de l'emploi. Alors que faire de ces exhortations, de ces proclamations non exemptes de solennité lancées par quelques internautes, vous auriez dû la brûler. C'est un faux parce que c'est un faux Rimbaud qui y apparaît. Je n'aime pas cette photo. Cette image fait obstacle à la lecture de l'œuvre. Fin de la lettre donc publiée dans Le Monde. On y lit évidemment d'abord l'importance de la photographie d'écrivain dans l'imaginaire collectif, avec ces mots quand même très forts, événements, chocs, émotions, révélations, mythologie collective, panique, malédiction, grand prêtre, idole, et vous notez évidemment le vocabulaire religieux utilisé donc par ces contempteurs, des contempteurs de la nouvelle image de Rimbaud. Hein. Je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si elle est authentique ou pas, ça n'est pas la question. On peut lire aussi dans ce texte un phénomène assez intéressant qui est le passage de ce que j'ai appelé dans la visibilité l'effet référentiel à ce que j'appellerais volontiers l'effet sensuaire. Alors, l'effet référentiel, c'est le choc de la rencontre avec l'original quand on connaît la copie et le désir d'accéder au référent quand on a eu accès qu'à ses doubles. Hein. C'est ce qui se passe quand on rencontre une célébrité dont on connaît les images, et puis on la voit en vrai pour la première fois, et même si on n'est pas fan de la célébrité, il se produit un petit choc émotionnel que j'ai appelé l'effet référentiel, hein, la rencontre avec le référent. Là, on le voit, on voit cet effet référentiel dans la phrase « le désir d'en voir plus, d'en savoir plus sur Arthur Rimbaud bon. ». Mais dans ce texte, ce qui compte n'est pas l'effet référentiel, c'est bon, ce que je peux appeler l'effet sensuaire, c'est-à-dire la fétichisation de l'image comme relique, le chaînage de la reproduction à l'image originale à son référent. Hein, la reproduction, l'image originale et le référent qui est Rimbaud. Donc la reproduction, c'est la photo controversée, l'image originale, c'est la fameuse photo de Carja par laquelle nous connaissons tous l'image de Rimbaud, au référent. Hein. Et donc là, on a bien exactement l'effet qu'on a avec le sensuaire, hein, l'idée que le linge porterait l'empreinte de l'image. Donc la photographie même du sanctuaire est investie de cette idée que le référent de cette photo, à savoir le linge, porterait lui-même l'empreinte du référent, c'est-à-dire le Christ lui-même. Avec donc, on a cet effet sensuaire dans des phrases comme s'ils avaient ressenti le besoin de s'assurer que ce cliché existait vraiment matériellement. Hein, c'est-à-dire, les gens ont accès à la photographie dans les journaux de la photographie elle-même, hein, qui devient un original par rapport à son original ultime qui serait Rimbaud. Bon. Donc, comme s'ils avaient ressenti le besoin de s'assurer que ce cliché existait vraiment matériellement, et comme si la confrontation à l'original allait leur faire toucher du doigt, hein, ce que Rimbaud avait été pour eux. Hein, toucher du doigt, on a vraiment l'effet relique. Hein. On a également dans ce texte le caractère déceptif de la confrontation avec l'image objectivée lorsque cette image ne correspond pas avec l'image mentale, le Rimbaud d'Aden n'avait pas la tête de l'emploi, ou avec l'image mythifiée, parce qu'une précédente image a déjà fait office d'image de référence, hein, le Rimbaud de Carja. Bon. Voilà. Et puis, on a aussi dans ce texte cette idée qui m'est chère de la photographie comme écran. Et un écran, c'est à la fois quelque chose qui permet la communication et qui sépare. Hein. C'est à la fois quelque chose qui nous permet de voir, et en même temps qui nous empêche de voir, puisqu'il est un intermédiaire. On a cette idée dans la phrase « Cette image fait obstacle à la lecture de l'œuvre ». Et ça renvoie à quelque chose à laquelle je me suis souvent confrontée dans mes travaux. C'est ce que j'appelle l'ambivalence de la médiation. Toute médiation est constitutivement ambivalente, puisqu'elle est à la fois ce qui donne accès à et ce qui empêche l'accès à. C'est la grande querelle entre, je vais aller très vite, mais entre catholicisme et protestantisme. Hein. Pour le catholicisme, la médiation est une chose positive, puisque toutes les médiations ne cessent de nous rapprocher du divin, alors que pour les protestants, elle est forcément négative, parce que toutes les médiations font obstacle au divin, y compris les images, la décoration, etc. C'est en vertu de cette ambivalence de la médiation que j'avais proposé une lecture, pour ceux qui le connaissent, de la sociologie de Bruno Latour comme une sociologie extrêmement catholique, puisque c'est une sociologie de mise en évidence et en valeur des médiations. Voilà. Alors, je vais successivement aborder, simplement une introduction, je vais aborder successivement d'abord le statut de la photographie d'écrivain, et en gros ça parlera de ce que les créateurs font à la photographie. En deuxième partie, je parlerai de la célébrité des créateurs, et ce sera donc ce que la photographie fait aux écrivains. Et en troisième partie, la visibilité des écrivains, et ce sera donc ce que l'image fait à la littérature. Je vais donc commencer par le statut de la photographie d'écrivain, donc ce que les créateurs font à la photographie. Et je vous précise tout de suite, je ne parlerai pas des photographies elles-mêmes, par exemple des très belles photographies qu'Adèle nous a présentées hier soir, mais je parlerai du statut, hein, du statut axiologique, c'est-à-dire en tant que valeur accordée à la photographie d'écrivain. Dès lors qu'un écrivain est l'objet de photographies publiées, ces photos relèvent d'une construction en même temps que d'une confirmation de la célébrité et plus précisément de la visibilité, c'est-à-dire la célébrité transmise par l'image. Quel est le statut de la photographie d'écrivain dans la hiérarchie des pratiques photographiques ? La valeur accordée à la célébrité a toute chance de placer l'œuvre qui la véhicule dans une position subalterne. Certes, dans le cas du portrait, la valeur respective de la personne représentée et de l'artiste qui s'acquitte de cette représentation, donc le photographe, peuvent produire des effets de cumul que connaissent bien les souverains. En faisant appel aux plus grands artistes de leur temps pour les portraiturer, ils s'assurent d'une certaine équivalence dans la grandeur respective de leur propre personne et de celle de l'artiste, de Clouet au Titien, de David à Freund ou à Depardon. De même, on ne s'étonne pas que les portraits les plus chers peints par Andy Warhol sont ceux des stars les plus reconnues, au premier rang desquels Marilyn Monroe. Mais qui, parmi les historiens d'art, prétendra que la Marilyn de Warhol est sans conteste sa plus grande œuvre, ou que le Mitterrand de Freund ou le Hollande de Depardon sont leurs chefs-d'œuvre? Il n'y a que dans les milieux populaires où l'on ne connaît les noms ni de Warhol, ni de Freund, ni de Depardon, qu'on pourra trouver pour ces images des admirateurs inconditionnels, probablement parce que ce qu'ils admirent dans ces images n'est pas l'image elle-même, mais son référent, hein, la personne représentée. Le portrait peint a toujours été inférieur dans la hiérarchie des genres à la peinture d'histoire, et les canaux les plus efficaces en matière de représentation et de diffusion de l'image des grands hommes, la gravure puis la photographie, ont toujours été placés assez bas dans la hiérarchie des arts de l'image, probablement parce que leur inféodation à des buts hétéronomes, tels que la mise en valeur d'un personnage célèbre, entrave le libre développement de la créativité de l'artiste, ainsi que d'une perception proprement esthétique, autonomisée par rapport au contenu. Ainsi, la célébrité tend sinon à dévaloriser l'œuvre d'art, du moins à entraver sa reconnaissance au sens de confirmation proprement artistique. La plus-value artistique de la photographie apparaît inversement proportionnelle à sa capacité à conférer une plus-value de célébrité en facilitant la reconnaissance au sens cette fois-ci d'identification des grands hommes. Des trois sens du mot reconnaissance, identification, confirmation, gratitude, il se trouve que les deux premiers, identification et confirmation, présents dans la fonction célébrante de l'art et notamment de la photographie, se trouvent en position antinomique. Valeur de célébrité et valeur artistique peuvent se cumuler dans l'esprit des profanes, mais tendent à s'opposer dans la culture savante. J'en viens maintenant à la deuxième partie, donc sur la célébrité des créateurs et donc ce que la photographie fait aux écrivains. La célébrité des écrivains, de même que celle des peintres et des sculpteurs ou des compositeurs de musique, a ceci de particulier qu'elle ne passe que très marginalement par la visibilité. C'est la renommée, c'est-à-dire la diffusion de leurs noms et des récits qui y sont associés, qui fait prioritairement la célébrité des créateurs, du fait que leur activité ne consiste pas à se produire en personne devant un public, comme le font les artistes-interprètes, mais à produire un objet, une image, un texte, une partition. D'ailleurs, peu nombreux sont les créateurs identifiables par le grand public, à l'exception des quelques cas particuliers que sont Van Gogh, grâce à ses autoportraits, Picasso ou Dali, pour ce dernier grâce à la publicité télévisée. Aucun visage d'écrivain ne s'est transformé en icône populaire, même si les admirateurs de Rimbaud, de Balzac ou de Proust connaissent bien l'image de leur visage. Et quant aux compositeurs, il n'y a guère que le catogan de Mozart et la chevelure romantiquement ébouriffée de Beethoven qui aient pu pénétrer la culture iconographique commune, tandis que très peu de gens savent à quoi ressemblaient Satie, Messiaen ou même Gershwin, pourtant contemporains de l'ère médiatique. Pour qu'un musicien acquiert cette forme moderne de célébrité qu'est la visibilité, il faut qu'il soit en même temps un interprète, tel Elvis Presley ou les Beatles. Mais ce rappel des données factuelles de la célébrité des créateurs est de peu de poids face à la question axiologique, en l'occurrence le phénomène massif qu'est la défiance partagée avec le monde savant envers la diffusion de leur image et leur propre ambivalence face à la visibilité. Dans un article déjà ancien, j'avais essayé de comprendre les raisons profondes de la dévalorisation dans le milieu cultivé de ce qui a trait à la personne de l'artiste. Et dans De la visibilité, j'ai évoqué ce qu'il en est de la dévalorisation de l'image des créateurs. Ces deux phénomènes se cumulent, donc dévalorisation de la personne et dévalorisation de l'image, pour n'autoriser vraiment la célébrité des artistes que lorsqu'elle prend la forme de la renommée ou de la notoriété de l'auteur d'une œuvre, à l'exclusion de la notoriété de sa personne et surtout de son image. Concernant tout d'abord la défiance du monde savant envers toute personnalisation du rapport à l'art, il faut avoir en tête l'opposition donc, que je développais dans cet article entre ces deux pôles d'imputation de la valeur artistique que sont d'une part la personne de l'artiste, mue par des motivations qui lui sont propres, et d'autre part l'œuvre, dont l'artiste, idéalement, devrait n'être rien d'autre que le médiateur transparent, œuvre qui elle-même n'aurait de valeur qu'en tant qu'elle est la médiatrice d'une transcendance, beauté, art, nature, divinité, etc., à laquelle seule la création permet de s'incarner dans l'expérience humaine, représentation qui nous est familière, hein, de la création littéraire, enfin artistique en général et littéraire en particulier, que j'ai développée dans Être écrivain. L'on peut ainsi distinguer deux principes opposés d'imputation de la grandeur artistique et notamment de la grandeur littéraire. D'une part, un principe personnaliste privilégiant le mérite intrinsèque de l'auteur de l'œuvre, œuvre qui n'en serait qu'une manifestation parmi d'autres possibles. D'autre part, un principe que j'ai appelé opéraliste, privilégiant l'excellence de l'œuvre, dont la personne de son auteur ne serait que l'occasion, l'instrument désigné parmi d'autres possibles, l'acteur par accident. Ces deux régimes de valorisation s'affrontent autour de la question biographique. C'est typiquement le fameux contre-sainte-beuve proustien qui stigmatise toute réduction de la création artistique à des paramètres personnels. Et ce sont aussi les nombreuses dénonciations proférées de l'intérieur du monde savant contre le culte populaire des artistes maudits. Il s'agit pour la culture lettrée de rompre autant que possible avec une éthique de l'empathie ou avec une psychologie de la création pour privilégier une esthétique de l'œuvre d'art articulée sur une herméneutique savante des déterminations internes à l'acte créatif. L'historien des religions Peter Brown a bien montré que l'opposition entre la valorisation savante de l'œuvre et la valorisation populaire de la personne est un schème fondamental en matière de célébration religieuse. Il l'a repéré dans les premières manifestations chrétiennes du culte des saints, entre les pratiques de l'élite et les pratiques de la foule, avec la même constante dénonciation par les représentants l'élite des excès de la foule. Ainsi, les formes du culte des martyrs désignées comme populaires se sont vues reléguées par leurs dénonciateurs au rang de simples prolongements du paganisme. Exactement de même que le culte populaire des artistes maudits dans la modernité tend à être stigmatisé dans la distanciation ironique ou la commisération désolée comme un prolongement ou une dégradation du christianisme, un reliquat d'inculture, de crédulité, de misère spirituelle, et vous en aurez reconnu une illustration parmi tant d'autres dans l'article sur la photo de Rimbaud que j'ai lu en introduction. La personne est par définition une condition commune aux humains, même si elle est une condition de singularité que les êtres héroïsés remplissent plus excellemment que d'autres. L'œuvre, en revanche, n'est pas donnée à tous, n'étant par principe le fait que de quelques-uns, ce qui contribue à expliquer que le monde savant tende à privilégier la rareté de l'œuvre, fût-elle académique, plutôt que l'ordinaire de la personne, fût-elle hors du commun. C'est pourquoi les formes personnalistes de la célébration sont associées aux pratiques communes, tandis que les formes opéralistes le sont aux pratiques savantes, celles-ci s'opposant à celles-là, d'où cette relative stigmatisation de toute mise en exergue de la personne, notamment par la photographie, mise en exergue qui se heurte à une autre et dernière forme de stigmatisation, qui est la stigmatisation qui touche à proprement parler à la visibilité, la question de l'image. Donc ce sera ma troisième et dernière partie, ce que l'image fait à la littérature. Et donc j'en viens à la seconde dimension de cette défiance que nous connaissons tous, voire que nous pratiquons, envers une forme de célébrité qui serait trop axée sur la personne de l'artiste, la défiance donc envers l'image, c'est-à-dire envers la diffusion à grande échelle du visage des écrivains, ce que j'appelle leur visibilité. Dans la catégorie des créateurs, peintres et sculpteurs, compositeurs, auteurs et chercheurs ne sont pas logés à la même enseigne. Car contrairement aux plasticiens et aux compositeurs, les auteurs, littéraires ou scientifiques, bénéficient d'un préjugé plus favorable de la part des programmateurs de télévision ou des éditeurs de presse. Les reportages ou les émissions qui leur sont consacrées ou dans lesquelles ils interviennent permettent à certains d'entre eux d'accéder à une visibilité, même si elle est souvent éphémère, le temps que soit oublié leur passage à l'antenne. Elle est aussi, nous allons le vérifier, problématique. Les écrivains, vous le savez, sont déchirés. D'un côté, chacun rêve d'avoir sa photo dans les pages littéraires d'un journal ou d'un magazine, voire d'être invité à la télévision, car sans ces marques de reconnaissance, l'on est condamné aujourd'hui à l'obscurité. De l'autre, chacun redoute cette épreuve, d'abord parce qu'on craint une mauvaise prestation, on ne contrôle pas son image comme on le fait de son écriture, ensuite parce que la reconnaissance du grand public, mettre un visage sur un nom n'est pas la bonne monnaie de la reconnaissance littéraire, confirmer la valeur de l'œuvre, reconnaissance qui, elle, doit passer par l'approbation des pairs et des spécialistes. Les raisons de ce discrédit jeté sur la mise en lumière de la personne de l'auteur renvoient à des spécificités du statut d'écrivain que j'avais explicité dans mon livre « L'épreuve de la grandeur » consacré aux effets des prix littéraires. Ces raisons tiennent principalement à la dissociation entre l'œuvre créée et la personne du créateur, je viens de le dire, qui constitue une différence fondamentale entre le créateur et l'interprète. Et c'est ce que rappelle très bien la philosophe Judith Schlanger dans son très beau livre que je vous conseille si vous ne le connaissez pas sur la création. Je la cite, lorsqu'il s'agit de Marie, sur la vocation, pardon, c'était au Seuil en 98. Lorsqu'il s'agit de Marilyn Monroe, son image est EST son existence, son apparence est EST son message, sa visibilité est EST sa profession, et il est impossible de dissocier sa célébrité de sa personne. C'est bien ce qui a rendu son problème insurmontable. Mais ce n'est pas le cas d'un écrivain, même si ses livres ont un grand succès de vente et si son nom est extrêmement connu. Fin de citation. Et c'est ainsi que s'explique ce que Schlanger nomme la pathologie de la reconnaissance propre à l'ordre intellectuel, où, je la cite, « savoir, puissance, richesse ou gloire ne sont plus tant des objectifs en soi que des armes dans la guerre des regards ». Et dans cette guerre, gare à qui, se trompant d'arsenal, croirait pouvoir l'emporter par l'exposition de soi-même aux yeux de tout un chacun. Il serait immédiatement rappelé à l'ordre par ses pairs, voire par sa propre conscience axiologique, soucieux de maintenir la triple prééminence des initiés sur les profanes, de l'œuvre sur la personne et du lisible sur le visible. Voilà pourquoi les spécialistes n'ont aucune indulgence envers toute exploitation éditoriale d'un nom et d'un visage connu pour des raisons autres que littéraires. Vous vous souvenez, en 1998, le premier roman de Mazarine Pinjot, c'était son titre, fille naturelle de l'ex-présidente de la République François Mitterrand, et dont la publication fut disqualifiée comme un simple coup éditorial. Ces disqualificateurs sont prompts à fustiger ce qu'ils appellent les produits cathodiques ou à brocarder ironiquement, comme l'a fait Dominique Noguez dans son petit opuscule sur le grand écrivain, à brocarder donc le grand écrivain en un seul mot, acteur, je le cite, acteur non seulement de la scène littéraire, mais de la scène culturelle et de la scène publique en général, qui intervient dans la vie publique, même dans la vie directement politique, au même titre, fin de citation, au même titre que n'importe quel autre détenteur d'un capital de notoriété. Le discrédit attaché à la visibilité dans le monde littéraire est si fort qu'y apparaissent, même si elles demeurent rares, des stratégies d'invisibilité. Elles peuvent s'avérer relativement rentables en matière de reconnaissance, si l'on songe au cas de Julien Gracq ou Maurice Blanchot en France, de Salinger ou Thomas Pynchon aux États-Unis. Dans quelle autre catégorie socio-professionnelle ferait-on du refus de se montrer un critère d'excellence? Les écrivains, c'est la seule catégorie que je connaisse qui ait cette caractéristique. Dans une nouvelle intitulée « La vie privée », publiée en 1891, une nouvelle que j'aime énormément, Henry James met en scène un petit groupe d'estivants de la meilleure société anglaise en villégiature à la montagne. Aidé par la célèbre actrice Blanche Adney, le narrateur va percer le double secret du distingué dandy Lord Mellifont et du grand écrivain Clare Vaudreuil. Le premier, le dandy Lord Mellifont, n'existe qu'à moitié, car il n'est présent que lorsqu'il est vu par quelqu'un, alors que le second, l'écrivain Clare Vaudreuil, existe deux fois, dédoublé en un être social banal et ennuyeux, et un grand écrivain caché au regard de tous. Ainsi, la visibilité du mondain, dans la lumière de son cercle de relations, est seule garante de son existence, tandis qu'au contraire, l'invisibilité de l'écrivain, dans l'ombre de la création solitaire, est garante de sa grandeur. Voilà qui exprime admirablement, par le biais de la fiction, une caractéristique fondamentale de la visibilité. Elle n'est une valeur que dans certains milieux ou dans certaines circonstances, telles la vie mondaine, alors que dans d'autres, elle est une antivaleur, une valeur négative qui stigmatise plutôt qu'elle ne grandit celui à qui elle est affectée. Et la catégorie par excellence pour laquelle la visibilité n'est même plus une valeur ajoutée à la valeur authentique du talent, mais bien pire, un stigmate, une antivaleur, c'est la catégorie des créateurs et surtout parmi eux des écrivains, dont l'auteur Jamesien est ici, dans cette nouvelle, l'emblème. La visibilité, plus encore que la célébrité, possède cette particularité d'être une qualité à la fois éminemment publique, puisqu'elle n'existe que par l'exposition d'un être dans l'espace public médiatisé, et une valeur essentiellement privée, dans la mesure où l'attachement aux personnalités tend à s'éprouver et à se pratiquer plus qu'à se revendiquer. La célébrité des écrivains, et plus encore leur visibilité, ne peut donc être que, au mieux, une valeur privée, ce que j'appelle une valeur privée, qui est le contraire d'une valeur publique, donc une valeur qu'on ne revendique pas publiquement, voire, selon les contextes, une antivaleur, quelque chose qui stigmatise, étant donné donc le discrédit affecté à la personnalisation et à la mise en visibilité dans le rapport à l'art propre au monde qui en est le principal porteur et régulateur, à savoir le monde savant de la culture lettrée. Ainsi se confirme le rapport problématique entre art et célébrité, qu'il s'agisse de la célébrité des personnalités représentées, de la célébrité des œuvres d'art ou de la célébrité des artistes. Autant sur le plan factuel, la célébrité est une réalité fortement associée à l'activité artistique, autant sur le plan axiologique, le plan des valeurs, sa force est inversement proportionnelle à la qualité artistique, et ce d'autant plus qu'elle prend la forme de cet objet antinomique du texte qu'est l'image. Ce sont donc ces subtils paramètres axiologiques qui gouvernent notre rapport aux photographies d'écrivains. Derrière le visage reproduit en noir et blanc ou en couleur, derrière la pose plus ou moins affectée, le menton sur la main étant devenu le signifiant par excellence de l'état d'écrivain chez les photographes pressés, peuvent se lire en filigrane ces couches complexes de valeurs et d'antivaleurs, familières et pourtant ignorées, que la réflexion axiologique peut révéler à notre conscience, de même que du temps de la photographie argentique, le révélateur faisait advenir à notre regard l'image toute proche d'un visage d'écrivain, d'autant plus lointain qu'admiré. Merci de votre attention.